Campus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel pour une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu, l'insécurité au Mali menace la campagne agricole. Témoignage des paysans d'Obandiagara. Plus de 20 morts dans une attaque dans un village du centre du Mali, dans la région de Mopti, selon un responsable local. C'est notre fait marquant de la semaine. Au Tchad, les producteurs ruraux délaissent les cultures vivrières pour le sésame. André Kodmadjingar s'est rendu dans la province du Mundoul. Vous suivrez son reportage. Festival Balkwende, la diaspora burkinabé, se mobilise en Allemagne, unie pour la paix et la culture. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Région d'Obandiagara, l'insécurité croissante menace la campagne agricole. Malgré des attaques armées, des initiatives sécuritaires permettent à certains agriculteurs de cultiver, nourrissant l'espoir d'un retour à la paix et à la stabilité. C'est un reportage à Koro, signé Tidiani Ouedraogo.
Non loin de la grande mare du village, les femmes pilent les mille et chantent la bravoure des agriculteurs. Une tradition du village bien respectée par Korka et ses amis.
Nous sommes très contents de piler les mille devant la grande mare, bien remplie d'eau de pluie. Nous allons préparer les taux pour donner aux cultivateurs qui sont au champ.
Malgré un léger retard constaté sur le démarrage de la campagne agricole, les agriculteurs de la région retrouvent les sourires après la grande pluie de la nuit dernière. Ici, l'agriculture est la principale activité économique.
Après la grande pluie d'hier soir, les mares sont remplies d'eau. Je suis en train de cultiver de l'arachide. Je peux avoir jusqu'à 40 sacs par hectare. Ensuite, je revends une partie des récoltes pour faire les dépenses de ma famille.
Depuis le début de la crise sécuritaire dans le centre du Mali, les attaques des groupes armés s'intensifient pendant l'hivernage. Plusieurs villages de la région n'ont pas accès à leur champ à cause des menaces. Comme Amadou, beaucoup ont été victimes d'attaques dans leur champ de culture.
Je suis victime d'attaques des groupes armés. Après l'attaque de notre village, les assaillants sont repartis avec nos troupeaux. Par manque de moyens, je laboure mon champ avec un âne et un bœuf, comme tu peux le constater toi-même.
Voilà. Selon des témoignages que nous avons recueillis auprès des populations, l'armée se déploie dans plusieurs localités de la région afin de sécuriser les cultivateurs. Une situation qui permet à Marthe de se rendre dans son champ en toute quiétude.
C'était difficile de se rendre au champ, mais les choses se sont améliorées ici. Cependant, il y a encore des villages où les cultivateurs ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause des menaces.
Les populations font de l'espoir sur le retour définitif de la paix et le vivre ensemble, car, disent-elles, l'agriculture et l'élevage sont les principales activités économiques de la région. Tidiani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Merci à Tidiani Ouedraogo. Nous ne pouvons pas l'avoir en direct dans cette émission. Nous avons des problèmes de connexion téléphonique avec Tidiani Ouedraogo, mais je vais vous donnez quelques commentaires de nos téléspectateurs sur Facebook. Je vais commencer par Bazema qui dit ceci, je cite, « C'est vraiment un sujet très sensible. La crise sécuritaire a eu un impact particulièrement négatif sur l'agriculture. Cependant, il ne faut pas croire que la situation était meilleure avant cette crise. Pour contrer ces effets, le gouvernement doit renforcer la sécurité dans les zones moins affectées par les attaques. Il est crucial de mettre l'accent sur la production vivrière plutôt que sur les cultures de rente, tout en subventionnant les intrants agricoles, les engrais et autres fournitures nécessaires. Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit, je cite, « Il est essentiel de fournir aux déplacés des terres cultivables dans leur nouveau lieu de résidence et de les aider à se constituer en association maraîchère ou en coopérative agricole, encourager leur horticulture en leur fournissant des fertilisants et des engrais naturels ainsi que des intrants agricoles tels que des houes et des machettes » serait également bénéfique, signé Alphonse Mbouaki. Nous approfondissons la discussion avec Ibrahima Aïdara, directeur exécutif de l'ONG Ossiwa, bureau Afrique d'Open Society Institute. Monsieur Aïdara, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
D'abord, un commentaire sur les deux commentaires de nos auditeurs.
Oui, je dois dire que je suis en phase avec les deux commentaires en les relativisant. D'abord, la première, comment est-ce qu'il faut soutenir donc l'agriculture pour aider donc ces populations-là à subvenir à leurs besoins et éventuellement à minimiser les effets des conflits sur ces communautés-là. Et comment est-ce qu'il faut investir dans les priorités agricoles pour minimiser donc les risques d'insécurité alimentaire et en organisant les paysans en coopérative. Je pense que c'est une approche qui a fait ses résultats ailleurs et que ce serait peut-être bien dans ces communautés-là de les aider à s'organiser, quoique en ce moment-là, du fait de l'insécurité et des conflits, c'est difficile d'avoir des populations sédentarisées qui sont en train de fuir la guerre pour les organiser en coopérative, leur permettre donc d'accroître leur production, leur productivité et d'accès au crédit pour investir dans l'agriculture et avoir une propriété foncière. Et il est aussi très difficile pour mon le collègue qui est intervenu en DRC, des gens qui se sont déplacés dans d'autres environnements, dans d'autres localités, de leur trouver un espace viable et durable de propriété pour leur permettre de résider, de les mettre en valeur et de cultiver durablement. C'est aussi un problème.
Alors, quels sont les impacts à long terme des conflits armés sur la production agricole et pastorale dans le Sahel? Et quelles solutions recommanderiez-vous pour atténuer ces effets sur la sécurité alimentaire?
Je pense que le commentaire dans le Bandiagara a montré à suffisance les impacts. Normalement, on aurait dû approcher de façon holistique la double relation qui existe entre les conflits et la production agricole et pastorale. Mais pour répondre précisément à la question, l'impact des conflits sur la production agricole et pastorale, je pense que le reportage de Bandiagara montre en suffisance. En fait, dans cette région-là et de façon plus générale dans la région des trois frontières au Mali, pour le cas du Mali par exemple, plusieurs populations, des milliers de populations sont déplacées et selon certains rapports, 80% des terres cultivables ont été perdues à cause donc de ces conflits-là. Plus de 100 villages ont perdu leurs terres agricoles. Et selon aussi certains rapports, notamment le Conseil norvégien pour les réfugiés, quand on prend par exemple un pays comme le Niger, plus de 700 000 personnes ont été déplacées. Le Mali, dont on vient parler, près de 300 000 en 2021. Et le Burkina Faso, également, c'est plus d'un million. Donc, tout ça fait que, à long terme, c'est une menace considérable sur la production agricole. Ces conflits armés constituent une menace considérable sur la production agricole et pastoral. Et donc, je pense que pour moi, ces conflits également posent le problème, comme le collègue du Mali venait de le dire, le problème d'investir durablement. Parce que quand on est en train de se déplacer constamment à cause de l'insécurité, ou quand on est menacé constamment par l'insécurité, il est difficile pour les agents économiques, agricoles et pastorales d'investir donc leurs ressources dans la production, d'avoir accès aussi aux ressources. Et également, ces conflits ont des gros aspects négatifs sur l'environnement. Donc pour moi, en termes de recommandations, je suis également en phase avec celui qui disait qu'il faut rétablir l'ordre sécuritaire. Je ne parle pas du tout sécuritaire, mais l'ordre sécuritaire, où il faut véritablement soutenir les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des populations. Mais également, il faut investir de façon adéquate dans l'agriculture et l'élevage, étant entendu que entre 60 et 80% des populations vivent de ces activités-là, dans ces zones-là. Alors, donc ça doit être une priorité des priorités.
Oui, oui. Avec l'agriculture et le pastoralisme représentant 40% du PIB régional et employant entre 60 et 80% de la population au Sahel, quelle stratégie pourrait être mise en œuvre pour protéger ces secteurs face aux menaces sécuritaires croissantes, en quelques secondes?
Donc, j'ai commencé à développer sur les stratégies à mettre en œuvre. Je pense que pour moi, d'abord, il faut restaurer l'ordre sécuritaire. Il faut suffisamment soutenir nos forces de défense et de sécurité pour protéger les populations, surtout les zones qui sont menacées par l'insécurité et le grand banditisme. Il faut également, comme je l'ai dit, investir. En fait, une priorité, investir suffisamment dans ces secteurs-là qui, comme vous l'avez dit, occupent entre 60 et 80% et qui apportent 40% environ du PIB, de la richesse du pays. Je pense que ça doit être la mère des priorités en investissant suffisamment. Et également, moi je pense également qu'il faut, il faut former et éduquer ces agents agricoles et pastoraux, parce qu'ils doivent pouvoir dépasser certaines méthodes pratiques culturelles et pastorales pour moderniser, mais aussi maîtriser l'utilisation des ressources et surtout maîtriser aussi, en tout cas, avoir un certain contrôle ou une certaine capacité d'adaptation aux effets de changement climatique qui également et constitue un problème dans cette zone-là.
J'ai une autre question, monsieur Haïdara. J'aurais besoin de quelques secondes pour y répondre. En 2024, la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest est restée critique, avec plus de 38 millions de personnes en insécurité alimentaire. Quel rôle peuvent jouer les organisations internationales et les gouvernements locaux pour améliorer la sécurité alimentaire au Sahel, en tenant compte de la dépendance de 64% de la population rurale à l'agriculture, comme l'indique la Banque mondiale?
Oui, également, je pense que le rôle des organisations internationales et des gouvernements locaux est tout à fait significatif. Ces agents doivent jouer un rôle important, particulièrement en appuyant les priorités de développement agricole et pastoral des gouvernements des pays du Sahel. Aujourd'hui, la plupart de ces États parlent donc de la souveraineté alimentaire, avec un programme plus ou moins élaboré, qui nécessite donc des investissements. Je pense que c'est le lieu d'appuyer donc les priorités nationales donc de ces pays-là, mais également promouvoir des pratiques agricoles durables, parce que ces organisations internationales ont cette expérience, ont cette capacité à avoir, une vision beaucoup plus large avec des expériences diversifiées pour aider à partager les expériences réussies avec donc ces pays-là et surtout appuyer le développement des infrastructures agricoles et pastorales.
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à Monsieur Aïdara et Ibrahima. Je m'excuse, nous avons plus de temps pour continuer malheureusement notre discussion, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je signale que vous êtes directeur exécutif de l'ONG OSIWA, Bureau Afrique d'Open Society Institute. Merci beaucoup pour votre expertise.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Tchad, pays sahélien, les producteurs ruraux abandonnent progressivement les cultures vivrières au profit des cultures de rente dans toutes les zones agricoles. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point sur la situation dans la province du Mondoul, où ces producteurs cultivent désormais plusieurs hectares de sésame, délaissant les cultures vivrières et le coton, autrefois prédominantes. Et suivez.
En se tournant vers la culture du sésame, qui dans un passé récent est considérée comme une culture de loisirs, ces producteurs ruraux veulent régler deux problèmes. 1. Avoir rapidement beaucoup d'argent. 2. Éviter l'épineuse question des conflits éleveurs-agriculteurs, car, disent-ils, les fans du sésame ne nourrissent pas les bœufs comme pour la céréale.
Quand on la vole l'autre, les céréales, l'autre là, il y a beaucoup d'animaux qui appellent l'autre à dévaster la culture de céréales. C'est pour cela qu'on a laissé tout le culture de céréales et puis on vient pour la culture de sésame.
La production de coton là pose énormément de problèmes. Le sésame, on a soit de l'argent aussitôt. Culture vivrière, il faut avoir des sacs avant d'avoir, je sais pas, une semaine. Et que le sac pour ses besoins. Par contre, le sésame, si c'est un sac, tu peux avoir deux sacs de sorgho.
Pour amener les producteurs ruraux à prendre conscience de cette situation, le ministère en charge de l'agriculture, à travers sa délégation de la province du Mandoul, a mis à la disposition de 98 producteurs ruraux 550 kg de sésame amélioré de céréales pour une superficie de 56 hectares. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mohamed Zen Aladjiaya, qualifie cette situation d'une dérive qui fait planer déjà la famine sur cette province qui est censée alimenter tout le Tchad. Il invite les producteurs à une prise de conscience.
Dans notre culture d'agriculteurs, il est inconcevable que le chef de famille passe toute la saison pluvieuse dans son champ et n'ait pas mettre quelque chose dans son grenier, quelle que soit la quantité. Le Burkina Faso, qui est le plus grand producteur de coton en Afrique, fait obligation à chaque cotonculteur de faire au minimum un demi-hectare de culture vivrière. C'est pourquoi je lance un appel en direction de tous les agriculteurs de prendre conscience et pendant qu'il est encore possible de ne pas faire entrer la famine dans les villages et les foyers.
Le délégué provincial de la production et de l'industrialisation agricole de la province du Mandoul, Alata Geralta, présente les statistiques des cultures de rente durant la campagne agricole en cours comparativement aux années précédentes.
L'année 2022, sur l'ensemble de la province, nous avons recensé 97 025 hectares. En 2023, nous avons recensé 110 063 hectares. Donc il y a eu une augmentation entre l'année 2022 et 2023 de presque 14%. Maintenant, cette année, pour le seul mois de juin, nous avons constaté que le sésame a été semé à plus de 33% de toute la superficie semée, alors que ce n'est pas encore le mois de semer de sésame.
Alata Geralta informe au micro de VOA Afrique que l'abandon des cultures vivrières a également des conséquences sur le bétail.
Cette année, nous avons constaté qu'au mois de mai et juin, beaucoup des animaux sont morts parce qu'il n'y a pas de pâturage. Dans les années passées, les tiges de céréales servent aussi de pâturage. Les gens font des stocks pour nourrir les animaux en période de crise. Mais cette année, il n'y en avait pas carrément. Les fans de sésame ne nourrissent pas les animaux. Donc il y a à la fois les conséquences pour les hommes et il y a aussi les conséquences pour les animaux.
C'est dans cette situation de risque de famine que l'INADES Formation Tchad a renforcé dans le cadre du projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest étalé à l'espace du communauté permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, les capacités de plus de 30 représentants des producteurs ruraux des zones agricoles du pays disposant des magasins et banques de céréales sur la gestion des stocks de proximité. André Kordomadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Mali, des hommes armés ont tué 26 personnes dans un village de la région de Mopti. L'attaque, survenue dimanche, a ciblé des villageois travaillant au champ. La montée de l'insécurité dans la région a conduit les autorités à se tourner vers la Russie pour obtenir de l'aide. C'est notre fait marquant de la semaine. Sékou Tangara, de notre station partenaire à Bamako, Africa Bleu Télévision, est avec nous. Tangara, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Alors, quelles sont les conditions actuelles des rescapés de l'attaque? Quelles mesures sont prises pour leur venir en aide?
C'est exactement la même question que nous avons posée au service de communication du gouvernorat de Badjangara, puisque là où l'attaque a été perpétrée relève de la nouvelle région de Badjangara. Et la réponse, c'est que les rescapés ont été conduits qui à Bankas, le chef-lieu de cercle, qui également au niveau de la ville de Badjangara pour une prise en charge médicale et également psychosociale. Et on apprend également que des dispositions côté sécuritaire sont en train d'être prises pour circonscrire les velléités de retour et puis éradiquer un peu l'insécurité au niveau de cette
ville. Comment la population locale et l'opinion publique réagissent-elles à cette nouvelle attaque meurtrière?
Bon, ce sont deux sentiments et les populations les expriment clairement. Premier sentiment, si de façon majoritaire tout le monde apprécie et a salué la relative montée en puissance de l'armée avec la prise notamment de Kidal, on ne comprend pas que les populations civiles soient régulièrement victimes d'attaques au niveau de cette zone-là, la région du centre, la région de Mopti et puis même une partie de la région de Ségou, Massina. Les populations civiles souvent ne peuvent pas aller tranquillement au champ, ne peuvent pas tranquillement faire le travail d'élevage. Donc ce sont ces deux sentiments-là. On salue la montée en puissance de l'armée, mais on ne comprend pas que les populations civiles, notamment dans la région du centre, puissent être laissées à elle-même, victime tout le temps de ce genre de massacre.
Et quelle a été la réponse officielle des autorités maliennes face à cette attaque et à la détérioration de la sécurité dans la région? Là, je parle des autorités de Bamako.
Pour l'instant, Bamako n'a pas encore réagi. Hein. Les réactions sont locales, soit la préfecture ou le gouvernorat de Badjangara. Mais on espère que peut-être le ministère va communiquer. Hier, il y a un communiqué qui a été publié, mais qui faisait plutôt référence à la prise de la localité de Inakar, hein, au niveau de la frontière avec l'Algérie, une localité prise par l'armée. Mais pour l'instant, de façon officielle, rien n'a été publié sur les tueries dans le cercle de Bankas. Peut-être que ça ne saurait tarder, mais quand même, c'est vraiment attendu pour qu'on puisse avoir la lumière sur cette information.
Et comment les médias locaux couvraient-ils cette situation et quelles sont les solutions proposées? En 40 secondes.
Il y a deux journaux qui ont titré sur cette actualité, l'indicateur du renouveau et Nouvel Horizon, qui titre tous à la une vingtaine de civils tués dans le cercle de Bankas. Et comme solution proposée, c'est peut-être d'accélérer cette militarisation des autres composantes des forces de défense et de sécurité, parce que au Mali, désormais la police, la protection civile, même les eaux les forêts ont été militarisées. Peut-être ça va être un renfort à l'armée qui est la seule à se battre sur le front. Et plus on aura d'éléments, plus la police, la protection civile vont venir, moins on va peut-être voir des attaques au niveau des populations civiles.
Merci, Sekou Tangara, de notre station partenaire à Bamako, Africa Bleu Télévision. Merci pour toutes ces précisions. Des Burkinabés de la diaspora ont organisé le 4e Barkwende Africa Festival en Allemagne pour promouvoir la culture burkinabé et appeler au retour de la paix au Burkina Faso face à la crise sécuritaire et humanitaire. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, s'est rendu en Allemagne pour couvrir ce festival. Suivez son reportage.
Nous sommes ici à Bad Kreuznach, petite bourgade située à 1 heure de Francfort, en Allemagne. À des milliers de kilomètres, le drapeau burkinabé flotte par là. Nous sommes à Barkwende Africa Festival. Il se tient pour la 4e fois. Des produits de l'artisanat burkinabé sont exposés. Des mets traditionnels du pays au rendez-vous. Il y a aussi la scène des musiciens burkinabés à l'image de Adama Diko, vivant en Autriche, tiennent le public en haleine. De quoi rendre fière la promotrice du festival.
Ouais, moi, je suis très contente parce que j'ai vu comment les Burkinabés sont sortis, comment la diaspora est sortie. Et en plus, j'ai vu les opérateurs économiques qui sont sortis, même les promoteurs des autres festivals aussi sont venus me soutenir. Et vraiment, ça me rend, ça me va tout droit au cœur. Et je suis très heureuse et je suis contente. Et je crois que nous devons continuer comme cela à nous soutenir entre promoteurs et africaines, Burkinabés en Europe.
Il n'y a pas que la promotion de la culture burkinabé. Tous ici, loin du pays, ont une pensée pour un retour de la paix. La thématique principale de cette édition du festival.
Actuellement au Burkina Faso, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix et nous prions Dieu que la paix revienne au pays. Actuellement, le Burkina Faso a besoin de la paix. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons arriver. Ensemble, nous allons retrouver la paix au Burkina Faso. Et je peux dire que ce message est en train d'aller, pas au Burkina seulement, mais dans le monde entier.
La culture est un ciment social qui permet de consolider le bâtiment, qui consolide l'édifice Burkina Faso et beaucoup plus, on va dire, l'AES, parce que nous parlons beaucoup plus en termes d'alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina et le Niger. Et nous utilisons effectivement la culture pour rapprocher les positions, rapprocher les gens et aussi dire que ceux qui sont en face de nous, généralement, ce n'est pas forcément des ennemis, c'est des gens qui se sont trompés, les ramener à la cause noble de notre pays.
Le festival était à sa 4e édition, un festival qui entend promouvoir la culture burkinabé, mais aussi demander le retour de la paix dans ce pays. Lamine Traoré pour VO Afrique, Bad Kreuznach en Allemagne.
Voilà, c'était donc Tidiani, c'était plutôt Lamine Traoré en Allemagne qui nous rapportait donc ce festival Barkwende. C'est le 4e Africa Festival en Allemagne. C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakiza était avec vous au micro. Lionel Lunanilagahima et Trésor Matondo ont assuré la production et la réalisation. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.